Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous parlerons cinéma, ciné-documentaire avec Simone Bitton. Elle est franco-marocaine, elle a réalisé de nombreux films dont documentaires qui ont participé à une meilleure appréciation de la culture marocaine. Et aujourd'hui, nous reviendrons avec elle sur son tout dernier documentaire consacré à Hajj Edmond, un personnage, une personnalité, mais également une partie de l'histoire du Maroc. Et puis nous irons à Marrakech où s'ouvrira la troisième édition du Flamme, du festival du livre donc africain de Marrakech le 30 janvier. Qui de mieux pour nous en parler que Younes Ajara, il est cofondateur mais également délégué général du festival, une édition très attendue, l'édition de la maturation avec comme thématique notamment la femme. Sinon, nous parlerons également cinéma avec Dahomey, puisque le 10 novembre 2021, 26 œuvres d'art étaient restituées à la République du Bénin, 26 trésors royaux de Dahomey, pillés par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle, réalisé par Mati Diop. Ce film documentaire ne finit pas de faire parler de lui, et on reviendra dessus avec grand plaisir dans quelques instants. Et comme promis tout à l'heure, direction la ville de Marrakech, où se tiendra très bientôt, le 20 janvier pour être précise, la troisième édition du festival du livre africain de Marrakech, Le Flamme. Donc une édition très attendue, une édition que l'on pourrait qualifier de celle de la maturation. Et qui de mieux pour nous en parler que Younes Ajaraï, il est cofondateur mais également délégué général du festival. On l'écoute.
Cette troisième édition se présente un petit peu comme une édition de confirmation de notre jeune festival, puisque nous n'avons que 3 ans. La première édition a été vraiment quelque chose d'extrêmement fort, et on nous attendait au tournant, bien évidemment, pendant la deuxième édition. Je pense que ça a été une édition de consolidation, effectivement, et où on a eu une très très belle édition également. Et puis là, je pense qu'on commence un petit peu à vieillir, si j'ose dire, puisque c'est la troisième édition. Et donc, on a veillé à ce que ce soit une véritable édition de confirmation. Donc, on va retrouver un peu les classiques, si j'ose dire, du festival, c'est-à-dire des rencontres qui sont essentiellement autour de la littérature, mais aussi qui sont des rencontres autour de l'histoire, de la politique, de la sociologie, de l'anthropologie, ce qu'on appelle les palabres. Et puis aussi, il y a tout un pan qui est consacré aux nocturnes, qui sont dédiés à des disciplines autres que la littérature. Et puis surtout, cette ouverture vers la jeunesse, qui est notre credo, parce que nous avons véritablement l'objectif de promouvoir la lecture et l'écriture auprès du jeune public. Et donc, de plus en plus d'ouverture vers cette tranche d'âge-là. Comme je vous le disais, c'est plutôt une édition de confirmation où on va essayer un petit peu d'asseoir les fondamentaux du festival.
Troisième édition du Flamme, je rappelle qu'ouvrira ses portes le 30 janvier, en plein cœur de la ville de Marrakech. Est-ce qu'il y a des thématiques donc qui vont un peu tout simplement porter cette nouvelle édition? Est-ce qu'il y a des lignes directrices principales qui seront mises au devant de la scène?
Oui, en effet. D'abord, nous n'avons jamais voulu thématiser ce festival. On a toujours veillé à ce que le festival soit un festival qui colle un petit peu à l'actualité littéraire des invités. Et donc, c'est essentiellement les publications de l'année qui sont présentes. Mais en même temps, nous avons toujours veillé à faire un petit focus sur une thématique particulière. Cette année, la thématique que nous avons choisie, ça sera autour des voix féminines, sera autour effectivement de la condition des femmes, on va dire, dans le continent et dans la diaspora, bien évidemment. Et donc, il y aura un focus effectivement autour de cette question-là, en présence d'un certain nombre, bien évidemment, d'auteurs et d'autrices de talent, en présence aussi de jeunes plumes, et en présence de quelques personnalités relativement importantes.
Et Younes Ajaray, donc en tant que délégué général du FLA, mais également en tant que cofondateur, voilà, troisième année, année, comme vous venez de le dire au début, de confirmation en quelque sorte de ce très beau festival. Et comment vous avez vécu l'éclosion de ce festival, son évolution, sa maturation, et surtout comment vous l'imaginez dans l'avenir? Peut-être que c'est une question un peu difficile, mais c'est vrai, comment vous le voyez grandir en quelque sorte?
Non, je pense que c'est une question tout à fait pertinente, parce qu'il vaut mieux, se projeter effectivement et essayer d'imaginer l'avenir que de rester un peu statique. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis le départ, parce que il est vrai que le projet déjà a été mûri pendant toute la période où j'ai été directeur artistique de Marrakech, capitale africaine de la culture, donc à partir de 2019. Et donc le projet était déjà un petit peu en projet précisément. On a transformé l'essai par la création du festival en 2023. Nous nous projetons effectivement pour d'abord accentuer cet aspect de promotion de la lecture et de l'écriture auprès des jeunes. Cette année, en particulier par exemple, on a parrainé un prix, le prix des lycéens, le prix littéraire des lycéens de Marrakech, qui fait dorénavant partie intégrante du festival. Nous allons aller plus loin, on espère effectivement aller vers la création d'un prix un peu panafricain, avec d'abord, pour commencer, quelques pays, on va dire, proches et voisins. Nous prévoyons également, et nous y travaillons avec un certain nombre d'éditeurs, pourquoi pas de lancer une publication sur plusieurs continents, avec des prix tout à fait abordables qui permettent au lectorat précisément d'accéder à la lecture, puisque nous savons très bien que malheureusement les prix arrivent très chers, à un coût très cher, les livres, je veux dire, arrivent à un prix très cher dans nos contrées. Donc voilà, on est plutôt dans cette dynamique effectivement de développer la lecture et l'écriture, la promotion de la lecture et l'écriture. Et en même temps, on réfléchit aussi à des résidences peut-être pendant l'année, pendant lesquelles on réunirait un certain nombre on ferait bénéficier un certain nombre de publics, notamment jeunes, encore une fois, de la présence d'écrivains venant des différents pays du continent. Donc, on est dans des réflexions qui prendront forme au fur et à mesure. Comme vous le savez, le nerf de la guerre est important et nécessaire pour pouvoir essayer de concrétiser toutes ces idées, mais on y travaille, on est assez confiant. Donc oui, on essaie de se projeter, vous avez tout à fait raison.
En tout cas, on sera, on l'espère, au rendez-vous, Younes Ajaray, pour la troisième édition du FLAM qui ouvrira ses portes le 30 janvier. Je rappelle que vous êtes délégué général, mais également cofondateur du FLAM. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir.
Merci à vous et on vous attend nombreux.
Et après avoir parlé littérature, nous parlons tout de suite cinéma avec Dahomey, puisque le 10 novembre 2021, 26 œuvres d'art étaient restituées à la République du Bénin, 26 trésors royaux du Dahomey pillés par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle. C'est ce rapatriement justement que documente Dahomey, le deuxième long métrage de la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop. Dahomey, sacré par l'Ours d'Or à la dernière Berlinale, alors que devient finalement une œuvre quand on lui ôte son attribut culturel, symbolique, et que l'on l'expose dans un musée, qui plus est, un musée étranger. Les statues peuvent-elles mourir et renaître? L'art est-il immortel? Tout de suite, un extrait de la bande-annonce. Dahomey est donc le dernier documentaire de Mati Diop. C'est l'une des questions d'ailleurs que l'on se pose quand on voit Dahomey, film hybride entre documentaire sur le processus de restitution d'œuvres conservées au musée du Quai Branly à Paris et qui vont faire le voyage retour pour Cotonou, documentaire aussi quand Mati Diop filme un débat entre étudiants à l'université d'Abomey au Bénin, mais fiction quand elle nous fait entendre en voix off et en langue fond le monologue intérieur d'une des œuvres. La statue anthropomorphe du roi Gezo, mais comment vivre le retour de ses ancêtres dans un pays qui a dû se construire et composer sans eux, avec leur absence, tandis que l'âme des œuvres se libère, le débat fait rage parmi les étudiants de l'université d'Abomey Calavi. Donc Dahomey, le dernier film de Mati Diop à regarder d'urgence si ce n'est pas encore fait. Et nous continuons de parler cinéma et justement documentaire avec le dernier documentaire de la franco-marocaine Simon Bitton qui revient et bien sûr ce personnage phare marocain, l'Hajj Edmond. Et elle l'a présenté donc en avant-première, je le rappelle, lors du 21e Festival international du film de Marrakech. Les 1000 jours du Hajj Edmond étaient inscrits donc dans le section panorama du cinéma marocain. Et on revient donc avec Simone Bitton sur sa relation avec Feu Edmond Amran El Malah, le tournage de ce film Lettres, et bien sûr son processus de création et le message ô combien important derrière ce documentaire.
La plus puissante de ce qu'a été la fin de la vie, de l'expérience juive marocaine au Maroc. Il a décrit le départ, il a décrit la fin, il a décrit comment nous avons été petit à petit, pas petit à petit en fait, très rapidement, aliénés par exemple par la langue. Et j'ai ouvert le film sur un texte où il parle de ça. Comment les écoles françaises qu'on nous a offert, et en un sens c'était un cadeau merveilleux parce qu'on nous a offert l'éducation. L'Alliance israélite est venue et a éduqué les enfants juifs, même les enfants juifs très pauvres, nous a donné une très bonne éducation qui nous a permis de faire des études et des études supérieures très vite auxquelles n'ont pas eu droit nos frères musulmans pendant une ou deux générations. Ça leur a pris de rattraper ce retard-là. Donc c'était à la fois un cadeau, mais c'était un cadeau empoisonné parce que ça nous a séparés, ça nous a arrachés à notre langue, à notre environnement naturel. Tout cela est très complexe et il fallait une plume comme celle d'Edmond pour réussir à le transcrire sans faux semblant. C'est pas nostalgique, Edmond n'est pas nostalgique, il est coupant, il est intègre. Il n'a pas peur de la nuance, il n'a pas peur de... Il est parfois même très drôle.
Et c'est vrai que voilà, le personnage d'Edmond, l'Hajj Edmond, c'est vrai, il est vivant. Il est vivant, il est là, il est parmi nous à travers votre film, à travers ses extraits, à travers les images d'archives également. Les lieux, vous donnez beaucoup d'importance aux lieux. Par exemple, quand vous allez visiter l'immeuble... Où il habitait enfant. Voilà, ça a changé, c'est un peu délabré. Et j'ai adoré, mais vraiment ce plan où vous montrez l'escalier. Et le mot m'échappe en français, la rambarde et le petit rond doré. Et ça m'a renvoyé au toucher. C'est le cinéma qui parle aussi à travers le toucher, à travers les sens.
S'imaginer ce vieux monsieur qui montait à pied et qui descendait à pied ces 5 étages. Tous les jours. Moi, quand je l'ai connu, il avait déjà 60 ans. Il a encore vécu là, je ne sais pas, presque 20 ans. Oui, il habitait au 5e étage sans ascenseur dans un tout petit appartement du boulevard de Montparnasse. Les lieux racontent. Moi, je suis très attachée à l'authenticité des lieux. Je raconte une histoire et quand je peux filmer le lieu où s'est passée cette histoire, je sais que ça dit beaucoup plus de choses même que les paroles. Quand on observe le lieu, quand c'est le vrai lieu, le spectateur sent que c'est le vrai lieu, que ce n'est pas l'immeuble d'à côté, c'est Hada, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est cet escalier-là particulièrement qu'il montait. Et c'était important de trouver le vrai immeuble à Casablanca où il a grandi et la vraie maison à sa fille où il est né, pas celle d'à côté. Celle-là, même si celle d'à côté ressemble, il faut que ça soit celle-là. C'est ça l'intégrité du documentariste.
L'intégrité du documentariste et aussi votre sensibilité, je pense, à vous en tant que femme, en tant que cinéaste, en tant que marocaine, en tant que juive marocaine. Et moi, vraiment, j'ai été bouleversée par votre film. J'ai été très sensible. C'est tellement bien fait, tout se répond, c'est équilibré, c'est beau, c'est juste. Et surtout, en ces temps très difficiles, on a besoin de ce genre de film parce que peut-être que les nouvelles générations l'ont oublié, mais on a toujours été frères. Ma mère, par exemple, moi, me racontait que la voisine du haut, qui était juive, voilà, la maman d'en bas musulmane était tombée malade, elle ne pouvait plus allaiter son bébé. Donc, voilà.
Et c'était... Combien d'entre nous ont bu le lait? On bu le lait de femmes musulmanes et combien d'enfants musulmans ont bu le lait de femmes juives, bien sûr.
Et c'est vrai qu'en ces temps très difficiles pour tout le monde, des figures comme l'Hajj Edmond, comme vous aussi, parce que voilà, comme si il fallait rappeler au monde qu'il ne faut pas faire l'amalgame, voilà, et qu'il y a l'humain à côté.
Pas seulement ça. Il faut rappeler que le judaïsme, ce n'est pas ça, ce n'est pas ces gens qui tuent en notre nom. Ils prétendent le faire en notre nom, mais ce n'est pas en notre nom. Moi, M. Netanyahou ne me représente absolument pas. Ce n'est pas le judaïsme, ça. Nous sommes les gens du livre, nous sommes les gens de la sagesse, de l'étude. C'est ça le judaïsme. Ils ont transformé monstrueusement un héritage de sagesse, et de savoir et de mémoire en quelque chose de monstrueux. Et on va pas leur laisser ça, même s'ils sont les plus puissants maintenant. Le judaïsme, c'est pas le commerce des armes, ça ne l'a jamais été. C'est le commerce des idées, c'est le savoir, c'est l'étude. Et Edmond incarnait ça. Edmond était agnostique, moi aussi je le suis. Je n'ai pas peur de le dire, mais l'agnostique juif, il est juif quand même. Et notre identité, elle est fondée sur l'écriture, mais pas sur la guerre.
Elle est fondée sur le verbe, et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce documentaire. Donc les mille et un jours, les mille jours, donc le millénaire, le un jour restant, un clin d'œil aussi donc au roman d'Edmond, à son livre. Et c'est la rencontre de la caméra et de la littérature. Oui. Voilà, vous avez la caméra, oui. Il a les mots. Vous avez voilà, les mots à travers l'image et lui, il a les mots voilà, palpables, en oui, quelque sorte.
Et je me rends compte qu'il a inventé. C'est-à-dire, c'est surtout le dernier juif d'Assila, il m'a scié là, parce que j'étais persuadée, j'ai lu ce livre, j'ai lu cette page 50 fois, et j'étais sûre que quand j'irai au cimetière d'Assila, j'allais trouver cette tombe qu'il a décrite. Il l'a décrite dans tous ses détails, avec la date, le nom et tout. Ouma Kainesh, je l'ai cherchée partout. Je crois, elle n'existe pas. Il l'a inventée. Et donc, et là je dis, ma caméra n'a pas pu te prendre au mot, parce que la littérature, c'est pas le reportage, c'est autre chose.
En tout cas, vraiment, merci pour ce film. Voilà, c'est toujours un plaisir que de vous avoir, Simone.
Merci beaucoup.
Et après avoir parlé cinéma avec la franco-marocaine Simone Bitton, place tout de suite à la ville de Madagascar. Et pour une exposition photo qui raconte l'exil des Mikéas. Et c'est grâce au photographe Andy Razolo-Arivoni que l'on a le droit à cette exposition, puisqu'il raconte le changement de mode de vie forcé de ce peuple indigène, donc les Mikéas, de ces chasseurs-cueilleurs du sud-ouest de Madagascar. Dans son exposition, baptisée sobrement, ils gravèrent le sable à la fondation H. Les Mikéas sont menacés depuis plusieurs décennies par le défrichage qui détruit leurs forêts. D'ailleurs, les gardes forestiers les confondent en outre avec ceux qui exploitent leur habitat naturel. Conséquence, les 1400 membres de cette communauté ont tous fui vers des villages où ils tentent malgré tout de conserver leurs traditions, leur patrimoine culturel de ces quelques jours passés dans le village d'Ambo Lofoti où vivent 90 Mikéas. Le photographe, donc Andy Razolo-Ara Rivoni a pu eh bien, capturer ces moments de vie. Il retient la volonté de la communauté de s'adapter tant bien que mal à un nouveau mode de vie, et ce, malgré les discriminations qu'elle a subies de la part d'autres ethnies vivant en lisière de la forêt. Ils gravèrent le sable, donc une très belle exposition photo consacrée à l'ethnie Mikeas. On arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Tout de suite, on se quitte en musique avec Love Nwantiti façon remix. Sikai, merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que l'Afrique en culture, ça a écouté en avant-première, toujours sur Média Podcast.
Baby, my Valentine, yeah. Can I hit the making with temperature day? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your own heart. Never did it back and it's real. But now make us feel love. Yeah, my love one thing, thing. Me make a bad man. For your head, talk all they want. I don't care what they say, cause your matter. Now, in my con, they carry for my head every night. Now, you are one, they carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me, no, no, no. You can be my partner, never riding solo, no. And we got no one lucky, no need to party. Whoa, I feel it, what you're doing, no, yeah, baby, gotta go, gotta go. Oh, no, no. Your body, they back at me, see. Oh, no. Open up, make I see. Oh, no. Now, you where they got my fancy. They do me yaki panki. Oh no 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 no.
They call me. Never want to go, but you got me coming. Why should I be coming early in the morning? Oh yeah, shaking make us in my money. Call me Mr. Bean, I go make you honey. Hey, gimme, baby, make you gimme. I go show you love and I go take you to my city, city. Don't need to make a look pity. You won't make a sing Joro me before you go see me, see me. Fine girl, you know your body bad. Same body bad can make you shake it for Ghana. Here, dancing for me, baby, pana. Come and give me show.